Session de théologie par le Père Philippe à Saint-Jodard, le 28 août 1991.
Troisième journée. Ça doit être la journée où on s'attache le plus à commencer progressivement à entrer dans ce mystère de la parole de Dieu sous cet aspect particulier des tentations. C'est un moment particulièrement important puisque le temps de la terre est un temps d'épreuve. Selon la vision de la sagesse de Dieu. C'est un temps d'épreuve. De temps en temps, Dieu nous donne des petites joies ou des grandes joies, c'est très bien, mais ça ne dure pas. C'est le temps de la lutte. On a beaucoup perdu ce point de vue-là parce que on voit très bien ce que c'est que toute une perspective de libération. Qui veut nous libérer de toutes ces luttes, de toutes les souffrances, de tout ce que ça implique, dans la vision de Dieu. On voudrait faire de la terre un moment de bonheur. Le messianisme temporel est extrêmement fort en nous. Il était très fort à la venue du Christ, et depuis un certain temps, 70 ans, 100 ans, il reprend une très grande force. On voit très bien ces essais de théologie en se servant du marxisme. C'est essayer de trouver un bonheur sur la terre. J'allais dire toutes ces théologies d'aujourd'hui qui empruntent la philosophie hegelienne, au fond, regardent avant tout un point de vue. Messianisme temporel, au plan intellectuel comme au point de vue matériel. C'est intéressant à noter parce qu'il faut être un petit peu sensible à ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui. Sensible dans la perspective de la sagesse de Dieu. Pas sensible à la manière des journalistes ou à la manière des sociologues. Ça c'est très bien, laissons-les. Écoutez ce qu'ils disent, mais il ne faut surtout pas les suivre. Parce qu'ils n'ont pas une vision chrétienne. Ils n'ont pas une vision théologique. Nous devons maintenir, nous, notre regard de chrétien. Une espérance eschatologique. Une espérance dans le retour du Christ. Parce qu'on est dans l'épreuve. Le jour où on ne voit plus cela, on n'espère plus le retour du Christ. On dit, Seigneur, laissez-nous le temps de terminer ce qu'on a, puisqu'on a des idées géniales, merveilleuses, que personne jusque maintenant n'a eu. Permettez qu'on réalise tout ça. Alors, on est comme l'expression de l'Apocalypse, les habitants de la terre. J'aime beaucoup cette expression. Les habitants de la terre. Ce sont ceux qui ne veulent uniquement habiter sur la terre. Ils n'ont pas de finalité au-delà de la terre. Au-delà du vécu humain, au plan technique, au plan scientifique, ils n'ont plus de sagesse. La sagesse nous donnant le sens de la transcendance. Et je crois que tout messianisme temporel, c'est de vouloir découvrir la transcendance à travers l'immanence. Je résume, je dis ça rapidement au plan philosophique. Et je crois que c'est ça. Vous voyez, la conséquence de la primauté, de la négativité, de la négation, fait qu'on veut découvrir la transcendance à travers l'immanence. Alors qu'on ne peut découvrir la transcendance que directement. Ce qui nous dépasse. sens de l'immanence. Mais ce n'est pas l'immanence qui donne le sens de la transcendance. Oui. Ça nous aide à comprendre deux positions théologiques très très nettes devant lesquelles on se trouve aujourd'hui. C'est quelquefois même coupé au couteau, tellement c'est net. Et quand on dit progressiste traditionnaliste, hein, vous savez bien que cette distinction vient de Moscou, hein. Faut pas l'oublier. C'était le mot d'ordre au début du concile. On divisera l'Église en progressistes et en traditionnalistes. C'est une distinction qui n'existe pas dans l'Évangile. On est du Christ ou on n'est pas du Christ. Alors, si on est du Christ, ben, on a tous des tempéraments différents. On est conservateur quant à sa cave, quand on aime bien les bons vins, alors qu'on est conservateur quant à sa cave. Et on est très progressiste quant à son grenier. Et puis il y a l'inverse. Mais chacun d'entre nous, vous savez, ça n'existe pas. Un pur progressiste et un pur traditionnaliste, ça n'existe pas. Ce sont des slogans, ça. Mais c'est vrai, il y a des tempéraments plus ou moins progressistes. Ce qui est très curieux à observer, c'est que les progressistes, quand ils sont au pouvoir, deviennent traditionnalistes. Les pires traditionnalistes. Parce qu'ils veulent que ça reste au niveau où ils sont arrivés à la gloire. Alors, ça devient des traditionnalistes. C'est très curieux. Alors que un traditionnaliste, quelqu'un qui aime la tradition, devient de plus en plus ouvert au retour du Christ. Ce qui est le progressiste le plus grand. Désirer que le Christ revienne, c'est vraiment catastrophique. Bon, parce que c'est le progrès absolu. Je crois que quand le Christ sera là, enfin on respirera. Parce que Jésus nous aime et mettra à chacun d'entre nous une liberté. Alors, continuons d'entrer dans cette première tentation. J'y tiens. Cette urtentation, hein, tentation fondamentale. La tentation des tentations. Et elle est très belle, puisqu'elle est dite sous un mode symbolique. Alors, elle est très intelligente. Je vais vous montrer l'astuce du démon. On verra comment cette astuce se traduit dans l'Apocalypse. Je ne le vois pas tout de suite. Mais on le verra, parce que c'est intéressant. Voir le point de départ et le terme. Le démon, tout de suite, attaque par la négation qu'il prend de façon universelle. Et son venin pénètre. C'est pour ça qu'on parle de serpent. Le serpent, il a du venin. Et si on ne fait pas attention, ce venin pénètre dans le sang. Et le venin qui pénètre dans le sang amène à la mort. Alors heureusement qu'il y a une pierre merveilleuse qui broie le venin. Il faut l'avoir sous la main. Transposer ça au plan spirituel. Quelle est la pierre qui avale le venin? C'est Marie. Et l'antidote du venin. Dès que vous êtes attaqué par le démon, respire chez Mariam, dit Saint Bernard. Regarde Marie. Et toujours, tout proche de toi, la pierre qui permet que le venin disparaisse. Parce que le venin du démon, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Agens, agite, simile, simi. Le vieil adage. Tous ceux qui agissent, agissent semblablement à ce qu'ils sont. Or, le démon a perdu la contemplation. Il n'a plus qu'un seul désir, c'est d'avoir toujours raison. qu'une seule chose est dominée. Avoir des adeptes. Et faire que les hommes se détournent de leur père. Il est anti-père, le démon. Il a une rage contre la paternité. Parce que la paternité, c'est la fécondité. Alors il a une rage contre la paternité. Alors il la cache. En disant, on est en sainte démocratie. C'est très curieux que la démocratie sert constamment aux démons pour supprimer toute paternité. Pour supprimer toute autorité. Écoutez, ça me frappe beaucoup, ça. Oh, on est en démocratie. Enfin, oui, qu'est-ce que ça veut dire? La démocratie est très bonne quand les gens sont capables de se conduire seuls. Autrement, ça fait dégringoler. Jusqu'au jour, on se tellement bas qu'enfin on dira on peut pas rester dans le fond de la baignoire quand même. Il faut y sortir. Il en donnera beaucoup de pieds, puis on sortira. Mais il faut descendre assez bas. Alors le venin, c'est l'orgueil. Ça symbolise du serpent est extrêmement fort. C'est un symbolisme divin. C'est l'Esprit Saint qui a choisi le serpent. Quand on regarde Jung, on s'aperçoit que le serpent est un archétype très particulier. C'est intéressant, du coup. Pour nous, au point de vue croyant, c'est l'Esprit Saint qui nous donne ce symbolisme du démon. Parce qu'il est un animal rusé. L'orgueil, c'est d'être très rusé. C'est de vouloir attirer les autres par l'orgueil. Et la manière de pénétrer, c'est de montrer que obéir, c'est nécessairement tomber dans l'aliénation. Vous êtes des aliénés, sans fort. Alors Dieu dit, vous ne mangerez d'aucun fruit de l'arbre, d'aucun arbre du jardin. Alors la femme répond, alors mettez en parallèle ce qui est dit par rapport au commandement de Dieu. Vous voyez ça au chapitre 2, verset 16. Il y avait Dieu pris l'homme et l'installa dans un jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et Dieu donna cet ordre à l'homme. C'est l'ordre, l'ordre a été donné à l'homme. Et c'est la femme qui l'a reçu. La femme l'a gardé. Et elle l'exprime en face du démon. C'est intéressant de bien voir ça. Et cet ordre est dit de cette façon. Donc, chapitre 2, verset 16. De tous les arbres du jardin, tu peux manger. Mais comme c'est positif. De tous les arbres du jardin, tu peux manger. Une affirmation très nette. De tous les arbres du jardin. Ève a déjà un tout petit peu restreint. Nous pouvons manger du fruit des arbres du vide. Vous voyez, elle ne reprend pas ce que Dieu dit. Elle reprend son vécu. Nous pouvons manger, ça c'est son vécu. Donc, le vécu, c'est l'immanence. Toute la philosophie contemporaine de la féminologie, c'est le vécu. À la suite de Hegel, toute la féminologie. Et c'est l'immanence absolue. Et on veut, à travers l'immanence, redécouvrir le transcendant. Ça, c'est la catastrophe de notre monde d'aujourd'hui. Il faut appeler les choses par leur nom. On ne sait plus ce qu'est la transcendance. À quel moment l'intelligence humaine touche quelque chose qui la dépasse? Les idées nous font demeurer dans l'immanence. C'est pour ça que toutes les idéologies demeurent dans l'immanence. Quand l'intelligence humaine, par le jugement d'existence, affirme qu'il existe quelque chose d'autre, qu'elle touche quelque chose de transcendant. ceci est. Le petit caillou, ce n'est pas moi. C'est très très important de comprendre ça. C'est la seule manière d'éviter cette absolue immanence et de rester dans le vécu. Ceci existe. Tu existes. Tu es autre que moi. Ce que Sartre dit l'enfer, nous disons que c'est le premier contact du transcendant. C'est vrai. Le respect de l'autre, ça se traduit comme ça, du côté éthique. Le respect de l'autre. Quand il n'y a plus aucun respect de l'autre, il n'y a plus de justice. Alors voyez la différence du langage de Dieu, qui est très objectif, de tous les arbres du jardin tu peux manger. C'est la confiance. Dieu a une confiance en Adam, en Ève. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Alors c'est très curieux comment Ève occulte de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi ? Parce que le démon a dit nous pouvons manger du fruit de l'arbre de vie, dans tous les fruits d'arbre de vie et au milieu du jardin. Dieu a dit vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas. Donc elle met uniquement l'arbre qui est au milieu du jardin. Alors que Dieu avait donné le sens. Pourquoi ne pas manger de cet arbre ? Parce qu'ils sont dans la foi. Ils doivent recevoir de Dieu la connaissance du bien et du mal. C'est Dieu qui nous donne la connaissance du bien et du mal, au sens radical, au sens profond. Parce que Dieu parle à Adam et Ève qui ont la foi. Et Dieu parle au Père. Et tout de suite, Ève occulte cela. Ce qui permet au démon de dire que la connaissance du bien et du mal leur sera donnée par eux-mêmes. Alors que Dieu voulait montrer que la connaissance du bien et du mal, il la recevrait par Dieu lui-même. Mais comme tout est inversé, c'est le plaidoyer de l'immanence. Et je crois ça très fort. Parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. La philosophie contemporaine est une philosophie de l'immanence, du vécu. Comme la psychologie est une psychologie de l'immanence. Et c'est normal pour les psychologues. Le psychologue regarde le vécu de l'homme. C'est pas l'éthique, c'est la psychologie. Comment vivez-vous ? Ça, c'est tout à fait normal. Donc, de tous les arbres du jardin, tu peux manger. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. Alors, elle précise, vous voyez, c'est intéressant de voir ce qu'elle gomme et ce qu'elle précise. Autrement dit, nous avons par là le vécu. Si on avait le temps, on écrirait en grandes lettres sur le tableau le commandement de Dieu. Faites-le, vous. C'est facile à faire. Ce que Dieu dit et ce que Ève répète. Je remarquais tout le temps, avec la petite Marthe, que j'ai très bien connue, que quand je répétais ce qu'elle disait, Marthe disait, ah père, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Nous avons beaucoup de peine de répéter objectivement ce qui nous est dit. Parce que nous sommes du XXe siècle. je le suis encore plus que vous, puisque je suis plus vieux. Donc, j'ai encore plus. Et qui peut dire qu'il est l'homme du XXe siècle, né en 1902, et qu'il raconte toute l'histoire d'un siècle. C'est très vrai. Être l'homme du XXe siècle, c'est quelque chose, vous savez. Je ne sais pas ce que l'histoire dira du XXe siècle. C'est un siècle extraordinaire, puisque nous sommes dedans. C'est le siècle pour nous, parce que nous n'avons vécu que ce siècle-là. Les autres, on en a des petits bouts par les historiens, mais pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est notre siècle, puisque nous sommes dedans, que la Providence a voulu que nous sommes dedans, c'est le siècle par excellence pour nous. C'est juste de dire ça. Psychologiquement parlant, c'est notre siècle. Alors, ce qu'il faut, c'est en croyant sortir de notre siècle. En philosophe, sortir de notre siècle. Pour comprendre les déviations qui ont pu avoir lieu. Notre siècle a commencé par ce qu'on a appelé le modernisme. Ce venin particulier de la tentation du démon sur les intellectuels et spécialement sur les exégètes. Loisy, Renan. C'est intéressant de se rappeler ça, ce point de départ. Et puis les applications. On a chassé les religieux, la laïcité. On a pris ce couvent, ce qui est aussi du XXe siècle, qui n'est pas un couvent, un séminaire. On lui a ajouté une dénomination supérieure. Il fallait avant qu'il se convertisse en laïc. Il est passé du séminaire à un couvent. Et entre deux, il a connu la laïcité. Curieux, hein ? C'est mûr. Ils peuvent parler, n'est-ce pas ? Ils peuvent raconter des petites histoires intéressantes. L'autre jour, il y avait quelqu'un qui a vécu ici, à 14 ans. Il avait fait de la prison. Il n'était pas revenu depuis 20 ans. Il a regardé la chapelle. Il est entré dans la chapelle. Il a rencontré un jeune religieux. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette maison ? On lui a raconté. Elle était tout étonnée. Il pleurait. Parce que c'est mûr. Lui parler, on aurait dû lui faire compter. Où est-ce que vous avez été ? Dans quelle cellule ? C'est très important de voir ce siècle. Je ne sais pas comment Dieu le regarde. Je crois avec une miséricorde étonnante. Il y a les choses les plus étonnantes. La petite Marthe. Elle était de l'âge de Guiton. Elle est l'âge de Guiton, c'est très vrai. Et j'aime entendre parler Marthe de ce qu'elle a vécu et ce que Guiton a vécu. C'est intéressant. Ce sont des gens qui ont réfléchi. Et tout ce qu'il y a eu pendant ce XXe siècle. Voir les premiers aviateurs, c'est intéressant aussi. Quand on voit ces avions qui passent au-dessus de notre nez, hein, avec un vacarme tel qu'ils disent « Taisez-vous, taisez-vous !» Je pense toujours au gosse qui doit être dans un berceau et qui entend cet avion passer, qui se réveille en sursaut. Ça lui restera, vous savez. Ça détraque les enfants. Ça, c'est évident. Comment voulez-vous autrement ? Non, il faut que le progrès se fasse. Que la race humaine crève, mais que les progrès continuent. Les vitrines, je pense beaucoup à ça, moi. Les vitrines au monde Noël. Les vitrines extraordinaires, des jouets. Oh là 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 là. Et le gosse qui est avec sa mère, qui regarde ça. Oh maman, maman. La mère regarde le prix. Et la mère dit non, c'est trop cher. Ça ne signifie rien pour le gosse. Il voit une autre maman avec un autre gosse. Il regarde, la mère regarde le prix. Viens, on va entrer, je vais te l'acheter. Qu'est-ce qui se passe chez le gosse? C'est vitrine. C'est nécessaire pour que ça se vende. Ne voyez pas que ça détraque la psychologie des gosses. La révélation n'est pas une vitrine. Puisque chaque fois que Dieu présente un mystère, il nous le donne. Gratis. Merveilleuse. C'était comparativement à ce que représente l'économie, ce que représente la révélation. C'est ces choses-là sur lesquelles on doit réfléchir pour être du XXe siècle, quoi. Il faut toujours les deux notes. Hein. Le pape en Pologne, le jour de l'Assomption, et qui dit que l'Assomption, c'est la Pentecôte d'amour. Et qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui réfléchissent sur l'Europe. Telle différence de regard. Un abîme entre les deux. Et on doit regarder les deux. J'ai pas le droit de regarder uniquement, dire, oh, c'est merveilleux. L'entrée triomphale à Jérusalem. Marie regardait les deux. Elle regardait l'œil du Sanhédrin. Et Jésus qui entre à Jérusalem sur le petit d'un anneau. Ça me fait penser au pape, moi. Il est toujours sur le petit d'un anneau. C'est merveilleux, vous savez. On nous aurait demandé à quel moment on aurait voulu vivre au Moyen-Âge ou maintenant. Heureusement qu'on ne nous a pas demandé de choisir. Hein. Parce que je crois qu'on n'aurait pas pu choisir. Et Dieu nous fait naître dans ce siècle et dans la fin de ce siècle où le Saint-Père ne cesse de dire priez, priez, priez pour la fin de ce siècle. Il a demandé, quand il a fait la retraite des prêtres, où il y avait 3000 prêtres. Ça aussi, c'est extraordinaire. Le successeur de Pierre, qui n'a jamais eu, j'allais dire, ce rôle d'être le premier dans l'humanité d'aujourd'hui, comme homme. Manière dont il captive l'humanité, dont il la saisit parce qu'il est homme et père. La première fois que je l'ai vu, tout de suite, j'ai dit merci d'être tellement père. Et c'est ce que les jeunes saisissent. Freud a voulu tuer le père et il ressuscite. C'est sûr. Paternité extraordinaire. Évidemment, tous les idéologues refusent, au nom de leur idéologie. Alors que tous ceux qui sont au-delà de ces idéologies, qui reconnaissent le jugement d'existence, le pape est autre. C'est vrai, je ne suis pas le pape, donc il est autre. Il exprime une transcendance. Transcendance que je connais bien, ça vient de Dieu. Vous voyez, la tentation, cette première tentation, me fait comprendre tout ce que nous vivons aujourd'hui. Du reste, Saint-Père l'avait dit. Hein. Saint-Père l'a dit aux évêques. Il dit, comprenons cette première tentation. Elle est si importante. Alors, on voit bien, mettez en parallèle donc ce que Dieu dit à Adam et le vécu d'Ève. Et le vécu d'Ève en face du serpent. Le serpent lui fait passer un examen. Elle aurait pu faire appel à sa foi. Il aurait pu faire appel à Adam. Et dire avec Adam, hein, celui-là, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Dieu a dit exactement? Non, elle donne son vécu. Il n'y a pas de référence à l'autorité. Adam était quand même l'autorité. Une autorité aimante. Une autorité. C'est curieux que l'autorité nous rappelle tout le temps la transcendance. C'est pour ça qu'on ne l'aime pas. Parce que l'autorité est liée à la paternité. La première autorité, c'est le Père. Le Père est plus que l'autorité, hein, n'oubliez pas. Il ne faut pas mettre égal Père et autorité. Ce serait réduire la paternité. La paternité est plus que l'autorité. La paternité, c'est source de lumière et d'amour. Le Père est source de vie. Et donc de lumière et d'amour, de vie spirituelle. Mais la paternité est au-dessus, puisque nous disons que Dieu est Père. Dans la très sainte Trinité, il y a un Père qui est au-dessus de toute autorité. Notre foi nous fait adhérer à l'amour, pas premièrement à l'autorité. Rectifiez, hein, tout ce qu'il peut y avoir dans votre foi de trop sociologique. Rectifiez et prenez une foi contemplative. Et une foi contemplative nous fait adhérer au Père, source d'amour, source de lumière. Le Père est au-dessus. C'est très important, ça. C'est ce que je, quand je vois des jeunes qui... jettent tout en l'air, la plupart du temps, dans leur foi, ils ont identifié la paternité et l'autorité. Peut-être à cause de certaines autorités trop rudes, trop autoritaires. Le Père doit toujours se rappeler qu'il est Père avant d'avoir autorité, puisque son autorité repose sur sa paternité. Et qu'il faut qu'il donne à ses enfants l'image d'un Père source d'amour, source de lumière. Et pas premièrement source d'autorité. C'est pas commode, ça. Ça demande une certaine conversion intérieure. La présence du serpent aurait dû demander à Ève une conversion intérieure. Elle était sûrement dans un moment, ça n'allait pas très bien. Elle était un peu fatiguée. Fatiguée d'Adam. Ça arrive. Une épouse merveilleuse peut être fatiguée de son époux. Il ne faut pas dire que c'est la faute de l'époux. Commune. Puisque le propre de l'épouse, c'est de réveiller tout le temps le cœur de l'époux. Et le rôle de l'époux, c'est toujours de réveiller le cœur de l'épouse. C'est réciproque. C'est un amour réciproque. Vous voyez, ah, c'est la charge de l'épouse. Non, les deux. Les deux. Puisqu'il n'y a pas d'autorité. On est au-delà de l'autorité. Entre l'époux et l'épouse, il y a d'abord l'amour. Et pas l'autorité. Je n'épouse pas l'autorité. Écoutez, alors, vraiment, c'est lamentable d'épouser l'autorité. J'ai jamais vu ça, quelqu'un qui épouse l'autorité. À moins d'être tellement faiblard qu'on épouse l'autorité. On a besoin d'une canne, on a besoin d'un tuteur. J'épouse le tuteur. Mais non, on épouse un homme qui aime. Au-delà de l'autorité. C'est élémentaire, ça. On ne le rappelle jamais. Et on identifie paternité et autorité. Ce qui est très, très mauvais. Alors, Ève aurait dû, tout de suite, en présence de quelqu'un d'intelligent, et de plus intelligent qu'Adam, l'intelligence faussée et qui demeure l'intelligence. Le péché n'enlève rien à l'intelligence de Lucifer. Le péché détourne la volonté. Et la volonté de Lucifer n'est plus droite. Elle est faussée. Et son intelligence demeure. Et Ève, qui est sensible, Ève était très sensible, puisque le péché durcit notre sensibilité. Donc avant le péché, la sensibilité d'Ève était parfaite. On sent tout de suite, si on est en présence de quelqu'un qui est très intelligent. Prudence de ne pas laisser séduire. On est séduit par l'intelligence. L'intelligence métallique. Il y a des intelligences métalliques. Et l'intelligence de Lucifer, après le péché, est une intelligence métallique. Une intelligence coupée de l'amour. Une intelligence implacable. Qui montre le nécessaire. Et uniquement le nécessaire. C'est ça l'intelligence métallique. Coupée de l'amour. L'intelligence mathématique n'est pas métallique, mais elle peut le devenir. Chez des êtres orgueilleux. Mais les mathématiques sont bonnes, hein. C'est évident. Premier pas de l'intelligence spéculative. C'est les mathématiques. Donc c'est bon. C'est un bien d'intelligence de mathématiques. Mais comme les mathématiques n'ont pas une relation directe à la personne humaine, à la finalité, les mathématiques peuvent devenir métalliques. C'est-à-dire engendrer en nous une intelligence métallique implacable. La femme répond, dès qu'on répond au démon, on s'intéresse à lui. Répondre à quelqu'un, c'est s'intéresser à lui. Ce que tu me dis n'est pas bête. C'est ça que ça veut dire. Puisqu'il y a quelque chose de commun entre les deux. Tiens, tiens. Mais non, tu te trompes. Mais quand même, on ne sait jamais. Hein. Il y a peut-être quelque chose de vrai. On répond. Vous voyez la prudence qu'il a. Alors vous allez me dire, elle ne pouvait pas être... Ah, l'orgueil peut faire qu'on s'intéresse à quelqu'un de très intelligent qui risque de nous mener très loin. Très loin, en dehors de ce qu'est la contemplation. Parce que c'est ça qui est intéressant ici, vous voyez. On est quand même en face de deux êtres extrêmement intelligents. C'est pour ça que c'est pas banal du tout. Considérez ça comme banal, ça vous n'avez rien compris. C'est pas banal du tout. Le duel entre Michael et Lucifer, on n'en dit rien. Mais ici, le duel entre le serpent et Ève, et on est en présence de la première déviation qui ne peut se faire que par l'orgueil. Ève est intelligente, première intelligence humaine, éclairée et soutenue par la foi. Ève a une intelligence tout entière tournée vers Dieu. Il n'y a pas la moindre erreur. Serpent, du démon, de Lucifer, une intelligence métallique, qui tout de suite attaque le point vulnérable d'Ève. C'est dans ce sens-là, vous voyez, qu'il y a une psychologie étonnante. Un bon psychologue arrive à déterminer les vulnérabilités d'un être humain. Je crois que c'est ça qu'apporte avant tout le psychologue. les vulnérabilités et les possibilités de développement. Mais ils sont très sensibles aux vulnérabilités. Et le démon attaque tout de suite la vulnérabilité d'Ève. Quelle est la vulnérabilité d'Ève? Puisque elle est sans péché. Elle a la grâce de justice originelle. Sa vulnérabilité ne peut être que le lien entre l'intelligence et la foi. C'est ça, la vulnérabilité qu'elle peut avoir. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas du côté affectif. Hein. Quand on a dit que le premier péché, c'était le point de vue sexuel, ça c'est très gros. C'est la projection de Freud sur elle. Et Ève dit, mon cher Freud, tu n'as rien compris. Parce que c'est vrai. Freud ne peut absolument pas expliquer ça. Parce que c'est à un niveau bien plus élevé. C'est au niveau des intelligences. La lutte est au niveau des intelligences. Et non pas au niveau de la sexualité. Mais non, ça c'est pas juste. Déjà, quelqu'un comme Hésiode avait compris ça. Hésiode est bien plus intelligent que Freud. Parce qu'il nous montre la première lutte, qui est une lutte au niveau de l'irascible. Qui est la passion la plus proche de l'intelligence. Pour nous, qui sommes tous un peu détraqués, c'est vrai que les luttes au point de vue sexualité peuvent jouer une très grande place dans notre vie. Mais cette phrase terrible d'Aristote, c'est pour ça qu'on ne l'aime pas. Tout ce qui est commun entre l'homme et l'animal n'est pas proprement humain. Ça va très très loin. Ça. Tout ce qui est commun entre l'animal et l'homme, la sexualité existe chez l'animal. Et chez l'homme. Tout ce qui est commun entre l'homme et l'animal n'est pas proprement humain. Ce qui est proprement humain, c'est l'éveil de l'intelligence. C'est l'éveil de l'intelligence. Voyez, au plan génétique, pourquoi la mère est-elle tellement attentive au premier sourire de l'enfant? Parce que le sourire est proprement humain. Vous n'avez jamais vu un petit singe sourire? Cherchez, jamais vu. Et nos chers amis hein, de Val qui ont fait l'école commune maternelle entre les petits singes et les petits enfants n'ont jamais détecté un sourire du singe. Le singe ne sourit pas. Le petit enfant sourit. C'est le premier signe sensible de l'intelligence. C'est le sourire. Le sourire manifeste l'intelligence. C'est pour ça que c'est si merveilleux, le sourire d'un enfant. Moi, je suis toujours en extase devant le sourire d'un enfant. C'est extraordinaire. Parce que c'est l'aurore aux doigts de rose, comme disaient les Grecs. C'est l'éveil de l'intelligence à travers la sensibilité. Et qu'est-ce qui distingue la sculpture grecque de la sculpture égyptienne, c'est le sourire. Ah, les Grecs sont malins. Ils sont intelligents. Et ils viennent un peu trop matheux. Ils sont terriblement matheux. Construction des pyramides, c'est extraordinaire. Ça, c'est montrer la puissance. Les Grecs n'ont pas construit de pyramides. Ils ont construit des temples. Et des sculptures d'athlètes et le sourire de l'homme. C'est quelque chose, ça. La lutte première est entre la foi et l'intelligence. C'est pour ça que je dis que c'est si actuel. Parce que depuis Hegel, la distinction entre la foi et l'intelligence tend à être absorbée. Hegel ce bois de l'intelligence voudrait absorber la foi en montrant qu'il suffit d'être intelligent jusqu'au bout. Plus besoin de la foi. Alors que tous les grands théologiens du Moyen Âge montent la transcendance de la foi sur l'intelligence. Et que ce qu'il y a de plus grand pour l'intelligence, c'est d'accueillir la foi. C'est ce qu'il y a de plus grand. C'est d'accueillir la foi. Eh bien, je crois que ce duel, ce dialogue entre Ève et le serpent, c'est les rapports de la foi et l'intelligence. Le serpent n'a plus la foi. Il garde une intelligence angélique. Ève a la foi. Elle est en face d'une séduction prodigieuse. La première herméneutique de la parole de Dieu. Herméneutique, hein, c'est un mot savant, je le dis exprès. C'est-à-dire interprétation, c'est-à-dire exégèse. Toute exégèse est une interprétation, et toute interprétation est une exégèse, à des niveaux différents. Et une exégèse de la signification des mots. L'intelligence veut dépasser. L'intelligence cherche une nourriture qu'elle peut recevoir comme pure intelligence. Et elle veut dépasser le mystère de la foi dans un orgueil radical. Si l'intelligence est capax dei, l'intelligence est aussi capable de dire à Dieu non. La négation suprême. Et de dire Dieu n'existe pas. Ou dire Dieu se trompe. Dieu exagère. Elle peut dire non. L'intelligence humaine est capable parce qu'elle est capable. Si l'intelligence humaine n'était pas capable d'atteindre Dieu, elle ne pourrait jamais être athée. Elle resterait dans l'ignorance. Et comme l'intelligence humaine est capable d'atteindre l'existence de Dieu, elle est capable aussi de rejeter Dieu. Et le fait que l'intelligence est capable de dire à Dieu non, manifeste que l'intelligence est capable de souffrir à Dieu. Alors, c'est quand même très important de voir comment, en face de cette intelligence supérieure, qui est capable de séduire l'intelligence d'Ève, et de la séduire d'une manière telle que l'intelligence d'Ève rejette la foi, n'écoute plus Dieu, et n'écoute que son vécu. Ce qu'elle connaît. C'est ça le péché d'orgueil. C'est de vouloir mettre au-dessus de tout peut avoir pour nous une parole d'amour qui dépasse tout. Accepter que la connaissance affective est plus que la logique. Ça paraît complètement bête, hein, de dire ça. On est tous d'accord qu'une connaissance affective est plus que la logique, qu'une connaissance scientifique, qu'une connaissance philosophique. L'orgueil, c'est que l'intelligence, non, mon intelligence, mon vécu intellectuel, ne supporte absolument quelqu'un qui passe devant. Je n'accepte plus aucun enseignement de quelqu'un d'autre, même pas de Dieu. Après tout, Dieu m'a donné l'intelligence pour que je la fasse marcher. Si je suis à l'image de Dieu, je suis capable de me dresser en face de Dieu et dire ce que je dis, Seigneur, est beaucoup plus intelligent que vous. C'est ce que dit le démon. Le démon tient ce dialogue-là avec Dieu. Il en communique ici le fruit. Alors, voyez comment la femme va commencer à s'intéresser. Et le contact commence. Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Elle explique ça. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. On ne dit pas l'arbre du bien et du mal, mais au milieu du jardin. Donc, elle ne dit pas ce pourquoi Dieu donne le commandement. Mais au milieu, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Vous n'y toucherez pas. Sinon, vous mourrez. C'est pas tout à fait ça que Dieu a dit. Dieu a demandé tout simplement, d'obéir. Parce que le fruit, l'arbre du bien et du mal, est réservé à Dieu. Dieu peut le donner, mais gratuitement. On ne peut pas l'atteindre par nous-mêmes, par notre propre travail. Le serpent dit à la femme, pas du tout. Alors voilà son herméneutique. C'est ici que c'est très intéressant. Comment il va inverser dans son orgueil angélique. Pas du tout. Vous ne mourrez pas. Donc on commence par nier complètement la conclusion de la petite théologie d'Ève. Parce que, comme elle fait une petite herméneutique de la parole de Dieu, c'est une petite théologie. La théologie a commencé par la femme. Ça, c'est sûr. Et en face du dragon, en face du serpent, pas du tout, vous ne mourrez pas. Et Dieu sait que le jour où vous en mourrez, donc le serpent sait mieux ce qu'est Dieu que Dieu lui-même. Tout orgueilleux connaît mieux Dieu que de regarder la parole de Dieu qui nous dit ce qu'est Dieu, de nous regarder les effets de la création qui nous montre ce qu'est Dieu. Dieu sait que le jour où vous en mourrez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant du bien et du mal. Alors, cette chose très étonnante, si Dieu n'est pas le transcendant, il nous dépasse complètement. Si Dieu est connu dans l'immanence, par le vécu, qu'est-ce qui se passe? Dieu devient le rival. Le serpent introduit tout de suite ce qui est présent dans toutes les idéologies athées modernes. Dieu est le rival. Et tant qu'on n'a pas tué le rival, on ne peut pas être soi-même. C'est là le sophisme présent dans toutes les idéologies athées, contemporaines, qui sont nées depuis 150 ans, et qui est un phénomène tout à fait nouveau au point de vue philosophique. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de la philosophie, dans l'histoire de la pensée. Dieu est le rival. On est rival de quelqu'un, vous savez bien, quand on est unis dans le même genre. Le bien et le mal sont rivales. Unis dans le même genre. Le non-être n'est pas rival de l'être. Parce que justement, il n'y a pas de genre commun. C'est contradictoire. Mais les deux contraires ont même genre. Si l'homme, en prenant du fruit de l'arbre qui est au milieu de l'Éden, devient comme Dieu, connaissant le bien et le mal, il devient le rival de Dieu. Alors, il y aura l'éthique de Dieu et l'éthique d'Ève. C'est curieux, hein, que le combat est au niveau de l'éthique. Ça me fait penser à la bioéthique. Le combat est à ce niveau-là. L'homme, pour être parfaitement libre, doit pouvoir avoir son éthique. Mono. Prix Nobel. Mono. Dans les relations et dans les rencontres internationales à Genève. Avait dit, et le disait clairement, le développement de l'éthique doit être subordonné au développement de la science et de la science biologique. C'est donc la science biologique qui devient la norme de l'éthique. Alors que l'éthique réaliste, c'est à partir de la personne humaine, c'est à partir de l'esprit. Il n'y a pas d'éthique pour un cheval. Il n'y a pas d'éthique pour un chat. Oui, celui qui monte le cheval communiquera à ce cheval pur sang une certaine éthique. Ce sera l'éthique domestique. Ce cheval sera domestiqué. Comme le petit chat, il faut qu'il soit propre. C'est l'éthique du chat. Et elle est imposée de l'extérieur. C'est l'âme spirituelle qui fonde l'éthique. Et l'éthique chrétienne est fondée sur le mystère du Christ, par la foi. C'est pas le progrès de la science. Le progrès de la science n'atteindra jamais l'éthique humaine de l'amour d'amitié. L'éthique humaine de la contemplation. Jamais. Parce que ça reste dans l'immanence. Seule la connaissance de la personne humaine par l'âme spirituelle peut nous faire comprendre ce qu'est l'éthique. Vous voyez, c'est très intéressant que le combat d'aujourd'hui est au niveau éthique. Ça, il faut bien le comprendre. C'est au niveau éthique. Le grand combat. Et que la première tentation est au niveau éthique, le bien et le mal. Et que le démon introduit tout de suite dans cette relation de croyant d'Ève à l'égard de Dieu, de son Créateur, l'aspect de la rivalité. Par la rivalité, on met Dieu et l'homme comme des rivaux, contenus dans le même genre, fini et infini, sont contenus dans le même genre, faibles et puissants, esclaves et maîtres. On les met dans le même genre. L'immanence de la connaissance scientifique. Pas du tout. Vous ne mourrez pas. Et Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux se s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et comme des dieux. Être comme des dieux, c'est connaître le bien et le mal. C'est soi-même faire la distinction entre le bien et le mal. C'est donc découvrir soi-même ce qu'est notre vraie finalité. On la découvre subjectivement par notre vécu. Alors là, le venin à tout prix. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle ne pense plus à Dieu. Elle ne pense qu'à l'arbre. L'arbre est devenu l'essentiel de sa vie. Elle vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable aux yeux et qu'il était cet arbre désirable pour agréer l'intelligence. Vous voyez, elle n'est plus à l'image de Dieu, elle est à l'image de l'arbre. Tout est inversé. Et l'image de l'arbre, c'est l'arbre vécu par elle. L'arbre qui devient son idéal. Ce que Dieu a défendu devient l'idéal de la femme. Il faut à tout prix l'atteindre, l'assimiler, manger les fruits de l'arbre et communiquer ça immédiatement après Adam. Alors, leurs yeux s'ouvrirent à tous deux et ils connurent qu'ils étaient nus. C'est aussi très extraordinaire, ça. Saint-Père a eu des pages extrêmement intéressantes là-dessus, sur la nudité première. Un pape parle de la nudité première, comme ça, à partir de l'écriture. C'est intéressant, quand même, de voir ça. Ce phénomène de la nudité. Avant le péché, l'homme voyait tout dans la lumière de Dieu. Et dans la lumière de Dieu, on voit tout de l'intérieur. Puisque la lumière de foi nous fait regarder les choses de l'intérieur et nous fait comprendre comment l'homme et la femme sont chefs-d'œuvre de Dieu. Dès que l'orgueil vient, l'orgueil implique une connaissance qui veut dominer, une connaissance qui ne souffre pas d'avoir quelqu'un devant nous. Une connaissance qui veut dominer. C'est intolérable, alors. On regarde de l'extérieur. Parce que quand vous regardez les choses de l'intérieur, vous ne pouvez pas les dominer. Vous les regardez qualitativement. Vous ne pouvez pas dominer. Vous respectez. Tout ce que vous regardez de l'intérieur, vous le respectez. Quand vous commencez à regarder les choses de l'extérieur, vous les mesurez. Et connaître les choses par la mensuration, c'est les ramener à nous. Et on les domine. Ce que disait Heisenberg, pour bien qualifier ce que c'était que la connaissance scientifique, ce que mon filet prend, je l'appelle poisson. C'est dit admirablement ça. Ce que mon filet ne prend pas, j'ignore. Ce que mon filet prend, je l'appelle poisson. Le poisson, c'est seulement ce que mon filet prend. Connaissance possessive, connaissance de mensuration. Alors ils voient qu'ils sont nus. Ils veulent dominer l'un sur l'autre. Et alors, que l'orgueil immédiatement donne le désir de dominer à ça, oui. Et on domine comme on peut. On veut dominer, on domine comme on peut. Et on se sert des rapports sexuels pour dominer, ce qui est effrayant. Et ça, c'est le fruit de l'orgueil. Et je crois que c'est ce qui est montré par le point de vue de la nudité. La nudité avant le péché, la nudité après le péché. Après le péché, on ne peut pas. Et se cousant des feuilles de figuier, ils en firent des pagnes. Alors évidemment, on dit ça pour expliquer pourquoi il y a le vêtement. Oui, c'est sûr. Ça, c'est l'explication par la conséquence. J'essaie de comprendre dans la lumière de la sagesse de Dieu. Et dans la lumière de la sagesse de Dieu, la connaissance interne, qualitative, fait qu'on admire tout ce que Dieu a fait. On a un regard pur. Alors que si on a un cas de domination, celui qui est nu est désarmé. Et par le fait même, on peut dominer sur lui. Alors il se défend comme il peut. C'est très étonnant, ce passage. Parce que tout y est, d'une certaine manière. On montre la rivalité de l'intelligence et de la foi. Et comment le démon essaie de nous séduire pour que notre intelligence arrive à rejeter la foi. Le rejet de la foi. C'est bien, aujourd'hui, on parle du rejet de certains organes qu'on a greffés. Le rejet d'un rein qu'on a greffé. C'est le rejet de la greffe. Et les médecins savent très bien ce que c'est. C'est très intéressant. Parce que il y a le rejet spirituel, orgueilleux, de la foi. Les pères de l'Église parlent de la foi comme d'une greffe. La foi est au niveau divin. Et mon intelligence humaine est capable de Dieu, mais elle n'est pas au niveau divin. Quand elle est greffée, avec la foi, elle peut porter des fruits merveilleux. Il faut accepter la greffe. C'est-à-dire, il faut accepter qu'il y ait quelque chose qui est d'une autre nature, qui ne peut pas s'expliquer par l'immanence, qui ne peut pas s'expliquer par le vécu, qui vient greffer mon intelligence. Et l'orgueil ne peut pas tolérer la greffe, puisque c'est un produit extérieur. Alors il faut rejeter cela. Il faut être très attentif aujourd'hui et écouter les médecins, les chirurgiens qui parlent du rejet de la greffe. Il y a des quantités de raisons, hein. Mais les très bons médecins, avant de greffer, chose qui soit de plus en plus que naturelle. Alors il faut faire attention, hein. Il ne s'agit pas de transposer univoquement, c'est-à-dire matériellement, les conditions de la greffe au niveau biologique, au niveau divin, au niveau de l'intelligence, c'est tout à fait différent. Mais parce que si vous cherchez à rendre comme naturel à l'intelligence humaine, la foi, vous couvez des fureurs de l'irascible, du savant, pire que tout. Parce qu'on ne pourra jamais rendre comme naturel à mon intelligence humaine la foi. Elle est divine. Il faut au contraire montrer toute la diversité, toute la transcendance, et montrer que le langage du croyant, c'est un langage d'enfant, c'est un langage d'ami, c'est le langage de l'épouse, ce n'est pas un langage de savant. Et donc montrer toute la différence, mais montrer en même temps que la foi et l'intelligence ont quelque chose de commun. Tous les deux cherchent la vérité. Mais la foi cherche immédiatement le bonheur de l'homme. Alors que la science ne cherche pas immédiatement le bonheur de l'homme. Alors là, on voit toute la différence entre la foi qui est de nature divine, qui est de lumière divine, et l'intelligence humaine. Alors immédiatement après, on voit les conséquences.